Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et soyez les bienvenus sur Europe 1 ce lundi matin. Bon réveil à vous et bon retour chez vous, parce qu'on pense aussi à ceux qui viennent de passer une longue nuit au travail. On est là, quoi qu'il en soit, pour vous informer et pour vous divertir jusqu'à 6h30.
Est-ce que le week-end fut bon, ma chère Omblin?
Oui, mais il y a eu tellement de soleil, il a fait tellement chaud.
C'est vrai qu'il a fait beau.
On va en reparler, je pense. Et vous, ça va?
Ouais, ça va, très bien, excellent week-end. Mais vous me connaissez, je regarde toujours devant. Et ce que je vois, c'est une semaine riche en infos et qui commence maintenant avec un joli programme en perspective. Nous irons à Marseille à 6h10, là où se déroule depuis vendredi, vous le savez, le congrès mondial de la nature. Encore un grand rassemblement d'experts qui n'aboutira à rien, me direz-vous. Eh bien, peut-être pas cette fois, tant les derniers chiffres sur la biodiversité font, semble-t-il, réfléchir le monde entier. Une statistique, Omblin, les deux tiers des vertébrés sauvages ont disparu ces 50 dernières années. Comment mettre fin à cette hémorragie? Comment pousser les États à s'investir et à investir? Autant de questions que je poserai à Véronique Andrieux, la directrice générale du WWF France. Avant cela, Omblin, à 5h40, vous allez nous parler d'un mal invisible qui concerne 2,5 millions de personnes en France, un mal pourtant réversible.
Oui, l'illettrisme. Les journées nationales d'action contre ce fléau vont se dérouler partout en France cette semaine jusqu'à dimanche. Vous entendrez Aline Le Guluche qui nous racontera son parcours exceptionnel. À l'âge de 50 ans, elle est retournée à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, elle est porte-parole du programme national de lutte contre l'illettrisme et elle souhaite que son histoire soit une source d'inspiration pour toutes les personnes qui connaissent les mêmes difficultés.
On va aussi se divertir à 6h moins le quart dans la prescription culture et répondre à cette question que je me suis moi-même posée ce week-end en allumant la télé. Que regarder face à une telle abondance de programmes? Eh bien, Margot Barallon a la réponse. Elle nous a trouvé une nouvelle série très drôle sur 4 femmes quinquagénaires au bord de la crise de nerfs. Et puis on va écouter de la musique évidemment avec votre partition, Omblin.
Oui, le génie multi-instrumentiste qui pourrait presque se suffire à lui-même. Il a produit et enregistré quasiment tout seul son premier album, car disait-il, il n'avait pas l'argent pour se payer des musiciens. Lenny Kravitz, c'est l'histoire de son premier disque Let Love Rule, sorti il y a 32 ans. Ce sera à 6h20. Mais d'abord, c'est la météo. Bonjour Anissa Adadi.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Anissa.
On l'a évoqué après ce magnifique dimanche avec beaucoup de soleil. Est-ce que l'été se poursuit aujourd'hui?
Eh bien, oui. Ce lundi sera même encore plus chaud qu'hier. C'est une très belle journée. Bon, alors ce matin, comme d'habitude, nous avons encore le long des côtes de la Manche, sur le Nord-Bretagne, quelques petites grisailles. Des nuages bas qui vont très vite se dissiper. Dans l'après-midi, sur les Hauts-de-France, sur la région parisienne et le Grand Est, là aussi, quelques nuages vont bourgeonner. Des Pyrénées aux côtes méditerranéennes, là, ce sont les entrées maritimes qui sont un peu plus nombreuses. Bref, dans la journée, vous l'avez compris, il va faire très beau et c'est le soleil qui domine. Des orages éclatent sur les montagnes, hein, comme depuis plusieurs jours maintenant sur les Alpes et les Pyrénées. Alors côté température, on a 11 degrés à Auxerre ce matin, 14 à Strasbourg, déjà 17 degrés à Paris et 21 à Nice. Cet après-midi, il va faire très chaud. 23 à Strasbourg, 29 pour Marseille, 30 degrés à Paris et jusqu'à 35 degrés à Mont-de-Marsan avec un ressenti jusqu'à 40 degrés en plein soleil.
Merci beaucoup Anissa Dadi, on vous retrouve dans une petite demi-heure. Mais avant l'info, votre premier journal de ce lundi 6 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Ce sera l'un des procès du siècle. Dans deux jours s'ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. 9 mois de débats, plus de 1800 parties civiles pour 14 accusés présents. Éric Zemmour sème la zizanie dans les rangs de la droite après avoir lancé samedi son site Croisé des chemins, site que l'on vous a révélé ce week-end sur Europe 1. Le polémiste, pas encore candidat, doit également donner une série de conférences autour de son livre La France n'a pas dit son dernier mot. Et puis les Bleus arrivent aujourd'hui à Lyon pour préparer la rencontre demain face à la Finlande en match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Problème, ils ont encore arraché un nul samedi contre l'Ukraine, le cinquième. Alors où sont passés nos champions du monde? Réponse à venir avec Jean-François Pérez. Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
13 novembre 2015, presque 6 ans après les attentats qui ont frappé la France, le procès s'ouvre donc dans deux jours.
Le Stade de France, les terrasses, le Bataclan et 130 victimes au total. Ce sont plus de 1800 parties civiles qui se sont constituées pour ce procès qui durera jusqu'en mai 2022. Un procès hors norme qui a nécessité des années d'enquête. Mercredi, ce sont 20 personnes qui seront jugées, 14 présentes. Marion Dubreuil, bonjour.
Bonjour.
C'est un procès historique.
Oui, et pour faire face à ce défi, il a fallu construire une salle sur mesure. 550 places dans un hall du palais de justice transformé en cour d'assises. Un chantier évalué à 8 millions d'euros. En tout, jusqu'à 2000 personnes pourront suivre les débats dans l'enceinte du tribunal grâce à une dizaine de salles de retransmission. Et ce n'est pas tout. Les parties civiles auront également accès à une web radio tout au long du procès grâce à un portail ultra sécurisé. Et ça, c'est une première en France. L'audience a également été calibrée pour les accusés. Ils seront 14 à comparaître sous haute sécurité. Ce sera l'endroit le plus protégé de France, assure le premier président de la Cour d'appel de Paris. Parmi les accusés, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando du 13 novembre. À ses côtés dans le box, Mohamed Abrini, son ami d'enfance et des hommes, soupçonnés d'avoir participé aux préparatifs des attentats, fourni les armes, loué des planques, des voitures, aidé les terroristes dans leur cavale. Les 6 accusés absents, dont le donneur d'ordre en zone irako-syrienne, sont morts en fuite ou détenus à l'étranger.
Les accusés arriveront par un couloir ultra sécurisé construit pour l'occasion. La salle sera interdite au public. Seuls les avocats, parties civiles et juges y auront accès. Et pour s'y rendre, ils devront passer par une entrée spéciale et seront systématiquement fouillés.
Il n'est pas encore candidat mais sème déjà la zizanie à droite. Il, c'est Éric Zemmour.
Oui, le polémiste qui doit sortir un livre « La France n'a pas dit son dernier mot dans 10 jours » donnera des conférences pour officiellement parler de cet ouvrage. Une tournée qui commencera à Toulon dans le Var le 17 septembre. Comme nous l'indique son site Croisé des Chemins, dont nous vous avons révélé l'existence ce week-end sur Europe 1. Une tournée qui prend des allures de campagne électorale à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Alors, à droite, c'est un peu la zizanie. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Selon les derniers sondages, Éric Zemmour est crédité de 6 à 8% d'intention de vote. Et chez les Républicains, ça commence à sérieusement agacer.
Oui, l'ombre d'Éric Zemmour plane sur les Républicains. C'est le nom à ne pas prononcer ici, confie un militant rencontré à la rentrée des jeunes LR. Pourtant, le polémiste est sur toutes les lèvres, à commencer par celle des ténors de la droite. Quand ils en parlent, les visages se crispent. Et pour cause, ils ne sont pas d'accord sur la ligne à adopter face à ce nouveau venu dans l'arène politique, certes pas encore déclaré officiellement candidat. Et s'il participait à une primaire de la droite, la question se pose pour certains. Le député européen François-Xavier Bellamy y est favorable.
S'il dit qu'il veut représenter la droite, il faut qu'il ait sa place dans ce processus de désignation. En tous les cas, il faut un débat le plus ouvert possible.
Hypothèse inimaginable pour d'autres poids lourds du parti, à l'image de Damien Abad, le président des députés LR.
On va être très clair sur Éric Zemmour. Laissons-le dîner avec le Rassemblement National.
Le polémiste renvoyé à la table du RN, toujours est-il qu'en attendant, l'indigestion est bien du côté des LR suite à cette sortie hier d'Éric Ciotti, annonçant qu'il voterait Zemmour si celui-ci était au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Dire ça, c'est une grosse connerie, pestait hier soir un conseiller des Républicains. Voilà pour l'ambiance.
Et du côté du Rassemblement National, dérange-t-il vraiment ?
Eh bien là aussi, Éric Zemmour gêne Marine Le Pen, car s'il prend des voix à la droite traditionnelle, il en prend aussi à l'extrême droite. 3 à 5 points selon les sondages, c'est loin d'être négligeable, surtout si la patronne du RN compte faire la course en tête au premier tour.
À gauche, les journées parlementaires du Parti Socialiste sont organisées à Montpellier. Les élus se donnent rendez-vous dès aujourd'hui et pour 3 jours.
Et c'est pour préparer la rentrée que les députés, sénateurs et députés européens se retrouvent. Et c'est dimanche que la maire de Paris devrait annoncer son intention de se présenter à la présidentielle de 2022. Ce sera dans le journal de TF1 selon Le Parisien ce matin.
Des directeurs d'école qui choisissent leur équipe enseignante, eh bien ça existe déjà.
Et c'est l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron la semaine dernière à Marseille pour la rentrée 2022 dans certains établissements. Les syndicats sont catégoriques, ils n'en veulent pas. D'autres jugent l'idée plutôt bonne et ce n'est pas nouveau, Virginie Riva.
Oui, c'est un dispositif qui existe déjà pour les recrutements dits d'excellence, comme dans les classes prépa, les lycées français à l'étranger ou encore les BTS, mais aussi dans le privé, sous contrat. En éducation prioritaire, ça a déjà été tenté, sous le ministère de Luc Châtel en 2012 et puis vers 2015 avec ce que l'on appelait les postes profilés. Deux expériences négatives, selon les syndicats, mais pour le cercle de réflexion sur l'éducation vers le haut, il faudrait au contraire que les choses changent, car en France, le recrutement est trop centralisé. Marc Vénesson, fondateur du Cercle de Réflexion.
En fait, une des absurdités du système actuel, c'est comme c'est l'ancienneté qui dicte l'affectation, les enseignants les plus jeunes sont envoyés dans les établissements les plus difficiles, ceux où les autres enseignants ne veulent pas aller. Et donc, dès qu'ils ont suffisamment d'ancienneté et de points, ils demandent un changement d'affectation. Alors que c'est précisément dans ces établissements qu'on a besoin de construire des projets pédagogiques dans la durée, avec un vrai esprit d'équipe.
75% des pays européens confient notamment la mission de recruter des candidats à des postes vacants aux chefs d'établissement, selon un rapport établi par le Cercle. Pour l'instant, Emmanuel Macron promet une telle mesure à Marseille, à la rentrée prochaine, uniquement dans 50 écoles laboratoires. On ne sait donc pas à ce stade si elle verra le jour.
5h07 sur Europe 1. Vous hésitez peut-être à acheter un bien immobilier, eh bien vous auriez intérêt à sauter le pas.
Oui, c'est en tout cas ce que nous conseille une étude meilleurtaux.com. Avec Europe 1, dans 22 des 36 plus grandes villes françaises, il est plus rentable d'être propriétaire que locataire. En moyenne, il faut 5 ans et 8 mois avant qu'un bien devienne rentable par rapport à une location. En bref, si vous le revendez avant ce délai, vous perdez de l'argent. Et entre les villes, c'est parfois le grand écart. Exemple, à Perpignan, il vous faudra seulement 10 mois avant que votre résidence devienne rentable. À Paris, le délai explose, c'est 20 ans, 7 ans de plus que l'année dernière.
En Guinée, le président Alpha Condé a été capturé hier par des putschistes.
Oui, après le Mali et le Tchad, c'est un véritable coup de force qui a été réalisé en seulement quelques heures en Guinée-Conakry ce dimanche. Et visiblement, la population ne s'y oppose pas, Jean-Sébastien Soldaini.
La prise de pouvoir se fait par de longs échanges de tirs, des coups de feu aux abords du palais présidentiel qui résonnent dans toute la capitale. Une matinée d'affrontements sans faire de mort, suivie de scènes de liesse lorsque le président Condé apparaît dans une vidéo. Visiblement en bonne santé, l'air renfrogné, un juste retour des choses pour Alseni, militant pour les droits civiques à Conakry.
Démocratiquement, il ne faut pas s'en réjouir, mais du côté de la Guinée, et face à ce que les Guinéens sont en train de traverser, il faudrait savoir que M. Alpha Condé a violé la constitution en briguant un troisième mandat où toute la population guinéenne était opposée à sa candidature. Et il y a eu 99 morts de manière arbitraire, sans qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée.
Les forces spéciales qui ont mené ce coup d'État affirment avoir dissous les institutions et assurent que la transition sera apaisée en concertation avec tous les partis politiques. Quant à Alpha Condé, il est retenu dans un camp militaire, une mise aux arrêts qui sonne comme une retraite pour ce vétéran de la politique africaine devenu de plus en plus autoritaire à mesure qu'il se sentait isolé.
On termine avec le foot et après un cinquième match nul consécutif arraché par l'équipe de France samedi, les langues commencent à se délier.
Les Bleus qui arrivent aujourd'hui à Lyon où ils affronteront demain soir la Finlande en match de qualification pour le Mondial 2022. Seul problème, les joueurs de Didier Deschamps ne gagnent plus. Au mieux, ils terminent leur rencontre sur un match nul comme samedi contre l'Ukraine 1-1, sans compter l'Euro qu'ils essaient d'oublier, à tel point que les langues se délivrent, Jean-François Pérez.
Oui, et le meilleur exemple vient du capitaine Hugo Lloris. Lloris, c'est le bon soldat de la communication des Bleus, le relais idéal de la parole de Didier Deschamps. Langue de bois en bandoulière, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais ça, c'était avant, samedi soir, dans les couloirs du stade olympique de Kiev, le gardien de Tottenham n'a pas pris de gants.
Je pense que c'est fini, l'euphorie de l'après-coupe du monde 2018, où on sentait qu'à tout moment on pouvait faire basculer les résultats en notre faveur. On était sur une vague de réussite et elle s'est un petit peu cassée.
L'Euro a été un point de bascule, la machine si bien huilée s'est enrayée, préparation physique critiquée, blessures malheureuses, choix tactiques décriés, contestation des décisions du staff en plein match, gestion délicate de certains cadres, dont Kylian Mbappé. Deschamps cherche la clé depuis pour retrouver le succès et le sourire. Il pensait l'avoir trouvé avec Karim Benzema, mais si le Madrilène est irréprochable sur le terrain, son retour ultra médiatisé a bouleversé l'équilibre d'un collectif désormais fragilisé. Le sélectionneur a beau assurer qu'il ne se pose pas la question, il traverse bel et bien l'un des moments les plus délicats de son mandat.
Eh bien, on verra demain soir s'il y a un sursaut. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 et sur Europe 1, c'est l'heure des courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cran en Mayenne et mon pari gagnant sera le 602 Port-Étienne. Dans cette 11e étape du défi du galop, le Tour de France des galopeurs, il trouve ici une adversité largement à sa portée sur un parcours qui correspondra parfaitement bien à ses réelles aptitudes. Souvent vu à son avantage dans des étapes précédentes, sans pour autant avoir réussi à s'imposer, il pourrait bien, dès cet après-midi, combler cette lacune. Alors notez bien, pour Cran, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 2, Port-Étienne.
Le numéro 2, c'est noté. Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet. 5h11 sur Europe 1. Très bon réveil et courage si vous partez déjà au travail. On se retrouve dans une minute avec le pressing.
Notre revue de presse décalée avec au programme des sites porno en sursis, des coupes mulées flamboyantes et des télécommandes qui inquiètent. C'est très varié. Hein.
Ouais, à tout de suite.
Europe 1, on de la traconte.
Je vais vous raconter, en podcast et sur Europe 1, l'affaire Émile Louis. Mais il me fallait du temps pour le faire, j'ai donc choisi de le faire en 3 épisodes. Aujourd'hui, Émile Louis sauvé par les juges. Demain, la revanche des victimes. Et mercredi, Émile Louis raconté par sa fille.
On de la traconte.
Émile Louis, aujourd'hui à 14h, en 3 épisodes exceptionnels d'On de la traconte.
Tout savoir sur l'impôt sur le revenu avec le ministère des Finances. Vous avez des questions sur votre avis d'impôt? On vous répond dans un instant.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12 et comme promis, on est de retour. Très bon réveil à vous en notre compagnie. Je sais qu'il est bien souvent difficile d'émerger le lundi matin. Voilà pourquoi on vous a concocté un pressing aux petits oignons.
Oui, les articles qui nous ont interpellés dans la presse qu'on va vous raconter avec Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Blin, bonjour Julien, bonjour,
bonjour
à tous.
Martin. Jetons tout d'abord un œil sur les unes de vos principaux quotidiens immobiliers. Les villes où il vaut mieux acheter, titre aujourd'hui en France, qui on vient d'en parler dans le journal. Avec Europe 1, publie un baromètre de meilleurtaux.com. Tout autre sujet à la une du Figaro. 2022, Macron et Le Pen restent toujours favoris, titre Le Quotidien qui publie un nouveau sondage à 8 mois de la présidentielle. Et puis le juge Trévidic, 20 ans face aux terroristes. Voilà ce que l'on peut lire à la une de Libération qui a demandé au célèbre magistrat de revenir sur ces 2 décennies de lutte contre le djihadisme à l'avant-veille de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous retenu?
C'est un sujet inquiétant qui ressurgit de plus en plus dans l'actualité ces derniers mois, ces dernières années, la facilité que peuvent avoir les mineurs à se connecter aux sites pornographiques. Vous le savez sans doute, c'est pas bien compliqué et pour n'importe qui derrière son ordinateur d'avoir accès à YouPorn, Pornhub ou Xvideo derrière son ordinateur ou derrière son smartphone. Alors vous savez comment ça fonctionne. Il suffit de certifier qu'on a plus de 18 ans. Quelques clics suffisent.
Comment ça, on sait comment ça fonctionne compliqué. C'est quoi ce préjugé?
On apprend donc sur lemonde.fr que 2 associations, La Voix de l'Enfant et e-Enfance, ciblent les fournisseurs d'accès à Internet français, Orange, Bouygues Télécom, SFR ou Free. Elle leur demande de bloquer 9 des plus gros sites de vidéos porno. Alors pourquoi les fournisseurs d'accès? Eh bien parce que remonter jusqu'aux propriétaires de grands sites pornographiques est quasiment mission impossible. On sait à quel point ces images peuvent être nocives pour les adolescents. Beaucoup s'imaginent que le porno est la norme avec son lot de violences, d'images dégradantes de la femme. Alors, il existe des solutions pour éviter qu'un jeune se connecte facilement. Un identifiant par carte bancaire, une analyse de visage, l'envoi d'un SMS. Mais évidemment, tous ces systèmes de sécurité se contournent extrêmement facilement. Les fournisseurs d'accès à Internet en France vont-ils être obligés d'agir pour protéger les mineurs contre le porno en ligne? Le tribunal de grande instance de Paris tranchera jeudi, et c'est à lire sur lemonde.fr.
Donc, potentiellement, dès jeudi, la quasi-intégralité des plus grands sites pornographiques.
Oui, il y en a au 9, ouais.
Ne pourraient plus être accessibles en France. Voilà qui risque de faire parler. Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Julien, est-ce que vous avez déjà essayé la coupe mulet?
Non, Dieu merci, non.
Quel dommage.
Pourtant, ouais, je suis sûr que ça vous irait bien.
Pourtant, ma maman a été, m'a fait faire.
A testé beaucoup de choses sur,
sur moi, notamment une coupe au bol très années 90.
Ah,
magnifique.
Alors, il faudra montrer les photos.
Ouais, c'est ça, exactement. On va les voir sur les réseaux. Alors, la coupe mulet, pour ceux qui l'ignorent, c'est ce style capillaire tout droit sorti des années 80, cheveux court devant, long derrière, et qui, contre toute attente, fait son retour en 2021. Au point que des championnats d'Europe étaient organisés ce week-end. Ça se passait à Chénier, petit village de la Creuse. 500 personnes étaient réunies. Alors, comment est né ce drôle de projet? Eh bien, tout est parti d'une blague. Pour rire un ami a dit à un autre, un déprimé, qu'il avait une tête à mulet. De là est née l'idée d'en faire un événement, raconte Johan Détour, un des organisateurs. Très vite, il découvre que ce championnat d'Europe a déjà eu lieu. C'était en Belgique, en 2019. Ils contactent donc leurs homologues belges, ravis à l'idée de délocaliser leur concours. C'est pour ça que samedi à Chénier, il y avait beaucoup de nos voisins du plat pays.
On peut tomber assez vite d'accord pour dire que le mulet, c'est pas nécessairement beau. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est chargé de symboles.
Alors, chargé de symboles, c'est ce que pense aussi Hubert, chaussettes aux couleurs belges et magnifique crinière blonde. Selon lui, le mulet, c'est vraiment un état d'esprit, celui de l'autodérision. On ne se prend pas du tout au sérieux. Et puis ces championnats, c'est surtout l'occasion d'une grande fête avec musique rétro de circonstances et pas mal d'alcool aussi.
Mais il y a quand même une compétition, Martin.
Et oui, tout à fait. Une centaine de mulots, c'est comme ça qu'on les appelle, étaient candidats pour succéder à Gauthier Histin, vainqueur en 2019 et qui a laissé un petit souvenir dans la coupe. Évidemment, un échantillon de ses cheveux. Et son successeur, c'est un belge, encore un, Nicolas Van Der Kellen.
champion d'Europe de la Coupe Mulet 2021.
Et je vous remercie infiniment de toutes ces gloires qu'on m'apporte aujourd'hui.
Tout est dans la mesure, toute cette gloire.
Exactement.
Alors, il faut aller voir
sa tête, un routier corpulent et adepte du mulet depuis 20 ans. Il a été désigné à l'applaudimètre dans une ambiance de feu. Un pari réussi donc pour les organisateurs qui espèrent remettre le couvert l'an prochain. Les adeptes de la Coupe Mulet ont sacré leur champion. C'est à lire dans le magazine 20 minutes.
Merci Martin. La Coupe Mulet, vous Martin?
Jamais non, essayé, non, je suis. Non, je non.
Par alors, contre, la Fuego aussi. Ouais.
Julien, coupe au bol ou pas, on conclut avec vous.
Ouais. Est-ce que vous avez une télé chez vous, les amis?
Oui.
Non.
Alors, Ombline, est-ce que sur votre télécommande, il y a un bouton dédié pour accéder directement à Netflix ou toute autre plateforme?
Effectivement, elle est récente, oui, donc oui.
Eh bien, vous participez sans le savoir à fragiliser notre souveraineté culturelle. Bravo, Ombline. Comment les chaînes françaises perdent la bataille de la télécommande? C'est un article passionnant à lire ce matin dans le Figaro. Si cela fait plusieurs années maintenant que les touches Netflix, Amazon Prime ou encore Disney Plus pullulent sur nos appets, une nouvelle tendance est en train d'apparaître. Chez Samsung, numéro 1 mondial du marché, le design des nouvelles télécommandes est encore plus radical. On y trouve des boutons au logo de 4 plateformes. Mais le traditionnel clavier de numérotation, lui, a purement et simplement disparu. Impossible donc d'accéder rapidement à TF1, France 2, Canal ou M6. Le téléspectateur est prié de faire un détour par la touche menu. Les chaînes tricolores ne sont pas seulement évincées de nos télécommandes, elles sont aussi progressivement boutées hors de l'écran lorsqu'on l'allume. On tombe sur une interface avec plein d'applications, mais plus directement sur TF1 ou autre. Idem quand on allume son décodeur. Quel que soit votre opérateur, il faut désormais appuyer sur plusieurs touches pour sortir du menu et accéder à vos émissions préférées. Les chaînes de télévision tricolores l'ont bien compris, c'est littéralement leur survie qui se joue à terme, car à force de raccourcis pratiques et de menus d'accueil mettant en avant Netflix et autres, les téléspectateurs français risquent de changer leurs habitudes au profit des plateformes américaines qui, en sous-main, des accords avec les fabricants de télévision pour verrouiller leur hégémonie. Or, si nos chaînes n'ont plus de téléspectateurs, les rentrées publicitaires vont s'effondrer et avec elles, les investissements dans les films, les séries, l'information et les émissions. C'est une menace réelle pour notre exception culturelle, mais aussi un enjeu démocratique, car entre appuyer sur une touche pour accéder à Netflix et devoir longuement triturer sa zapette pour pouvoir regarder le journal de 20h, nombreux sont ceux qui choisiront la facilité avec pour conséquence, et on le voit déjà, le règne des fake news et de la désinformation.
Alors peut-être c'est aussi l'opportunité aux chaînes françaises de se réinventer.
Oui, peut-être. Pourquoi pas.
On en reparlera.
Avec plaisir.
Merci Julien. Voilà qui conclut ce pressing. Martin, vous revenez dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h et bientôt 20 minutes sur Europe 1. Les principaux titres de l'actualité ce matin, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Bonjour à tous. Un procès hors norme s'ouvre mercredi, celui des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 victimes, plus de 1800 parties civiles, 20 accusés, dont 14 présents. On suit le début de ce procès qui durera 9 mois toute la semaine sur Europe 1. Ciotti a choisi, ce serait Éric Zemmour contre Emmanuel Macron au second tour. On vous le révélait ce week-end sur Europe 1. Éric Zemmour a lancé son site Croisé des chemins. Il donnera des conférences partout en France pour la sortie de son livre. Une tournée qui a des airs de campagne présidentielle et ça sème la zizanie à droite. À gauche, ce n'est plus qu'une question de temps. Les journées parlementaires du PS commencent aujourd'hui à Montpellier et Anne Hidalgo, la maire de Paris, ne peut plus attendre. Elle devrait annoncer dimanche sa candidature sur TF1.
Merci Alban Le Prince. Prochain journal dans 10 minutes avec Christophe Lamarre.
Il est 5h20, très bon réveil à tous avec nous, avec présent les initiatives en France, la chronique qui nous met de bonne humeur en mettant en lumière celles et ceux qui s'engagent, font bouger les lignes. Et ce matin, Julien, on va parler d'un projet photographique sans précédent.
Bonjour Yann Arthus Bertrand.
Ben bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Photographe, réalisateur, président de la fondation Good Planet, on ne vous présente plus. Même si vous nous surprenez encore, puisque vous lancez aujourd'hui un vaste projet avec La Poste et ses 70 000 factrices et facteurs, que leur demandez-vous exactement?
Alors, j'étais en train de tourner un film qui s'appelle France, une histoire d'amour, parce que je me suis reconcentré sur mon pays, sur la France. Et c'est un studio photo qu'on tourne à travers la France et on va à la rencontre des Français. Et vous savez, les Allemands ont un proverbe que j'aime beaucoup qui s'appelle « Être heureux comme Dieu en France ». Et je veux montrer en France tout ce qui est formidable, le terroir, les gens, les lois sociales. Et je voulais travailler avec les facteurs. Et je vais un jour à La Poste Et il y avait une dame pour photographier le facteur de, de là où j'avais mon studio à Boulogne. Et j'avais une dame qui avait perdu sa mère et qui pleurait devant le comptoir et qui racontait à la personne derrière le comptoir la mort de sa mère. Et à un moment, elle lui dit « Je dois vous emmerder avec mon histoire, je suis désolé. » Et le gars derrière lui répond très gentiment « Mais madame, si ça vous fait du bien, ça fait du bien à moi aussi. Je suis là pour ça, je suis là pour vous écouter et vous pouvez continuer. » Ça m'a vraiment ému presque aux larmes. Et après, quand j'ai parlé au directeur de la Poste, il m'a raconté le lien incroyable qu'ont les facteurs avec les Français. Et du coup, ça m'a commencé à m'intéresser. Et j'ai suivi ma factrice dans mon petit village, au Ménul. J'ai fait 3 jours avec elle. Et le lien qu'ont les facteurs avec les gens, c'est extraordinaire. C'est la seule personne qu'on voit tous les jours. Ce que je ne savais pas, c'est que les facteurs, leur tournée leur appartient. Donc, ils peuvent rester 20 ou 30 ans dans faire la même tournée. Ils connaissent les gens intimement. Et cette essence de devoir, de mission, m'a vraiment impressionné. Et ils me racontaient qu'ils avaient l'impression de ne pas être très reconnus dans leur métier. Et donc, j'ai imaginé avec la Poste de dire, ben voilà, on va demander à tous les facteurs de France de photographier les Français préférés, ou il peut en avoir plusieurs. Donc, on a développé une petite application qu'ils ont tous sur leur Facteo, qui est leur espèce de téléphone sur lequel ils scannent le courrier, pour photographier les Français qu'ils ont envie de mettre en photo, qu'ils aiment. Et alors, il y a une photo, un gros plan, puis il y a la photo devant la maison. Et ils posent en même temps une vingtaine de questions sur qu'est-ce que c'est que la France pour vous, quel est votre plus grand rêve, qu'est-ce que c'est que le bonheur, puis aussi quel est votre film préféré, votre hobby préféré. Donc, c'est un peu une radioscopie en grandeur géante de la France. Et il y a 70 000 facteurs. Si les 70 000 jouent le jeu, même 35 000 et qui font chacun 10 photos, ça va faire 350 000 photos. Voilà, avec un petit questionnaire. Et ça me passionne, ça m'intéresse. Donc, je suis vraiment là pour dire à tous les Français, bah, demandez à votre facteur de vous photographier si vous l'aimez bien. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ils ont un lien formidable avec les gens. Des liens d'amitié. Et ils sont tous investis par une mission. Et c'est des gens qui n'ont pas un très gros salaire, ils travaillent beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de respect, j'ai vraiment découvert un monde. Et c'est ça qui est formidable dans ce métier de journaliste, c'est que quand tu pénètres un monde, et ça t'enrichit, ça te rend meilleur, quoi. Et d'avoir travaillé avec ces gens, ça m'a fait du bien. Ça va commencer ce matin, lundi 6 au matin, tous les facteurs de France peuvent photographier les Français qu'ils aiment et leur poser à tout le monde les mêmes questions un peu sur le sens de la vie. Voilà.
Ces portraits que vont prendre les facteurs, vous espérez qu'ils retranscrivent quoi exactement? Le vrai visage des Français?
Je trouve qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de méchanceté autour de nous, dans les réseaux sociaux, partout, la politique. Et j'ai envie de montrer une France bienveillante. Alors, c'est un peu utopique, ça, mais c'est ce que j'ai suivi ma factrice pendant 3 jours, tous les jours. J'ai vu les relations qu'elle avait avec les gens. Et cette relation, c'est vraiment des relations d'amour, d'amitié, quoi. Cette relation d'aider l'autre. De partager, parce qu'un facteur, il amène aussi bien les examens, il amène aussi bien les décès, il connaît la vie des gens, quoi. Bien sûr, par Internet, tout a un petit peu changé, mais on voit bien, et qu'est-ce qu'ils vont devenir les facteurs maintenant et il faut savoir aussi que ce qui m'intéressait, c'est que les facteurs, leur plus gros client, c'est quand même Amazon. Quand vous allez à Noël dans un centre de tri, il y a des milliers de colis Amazon partout. Donc, le rôle d'Amazon, qui soi-disant est en train de monter des entrepôts, j'espère qu'ils ne vont pas le faire parce qu'ils vont tuer la Poste. Et on a besoin de la Poste, on a besoin des postiers. Et moi, j'aimerais, quand je commande sur Amazon, ce qui m'arrive, pouvoir cocher, dire voilà, je veux que mon colis vienne que par la Poste, ça, c'est tout simplement.
Qu'allez-vous faire de ces milliers de portraits que vous allez, j'imagine, recevoir dans les semaines qui viennent?
Alors, on ne sait pas encore très bien. J'espère monter une très grande exposition à la Villette. On ne sait pas encore très bien. On attend de voir un peu ce qu'on a. Hein. On va attendre de voir ce qu'il y a. Et puis surtout, ce que j'attends, c'est mon film qui va recommencer, qui s'appelle France, une histoire d'amour, qu'on va recommencer au mois de mars. C'est un film cinéma qu'on fait avec France Télé, qu'on va pouvoir, grâce à ces facteurs, rencontrer des Français formidables, voilà, qui vont nous amener quelque chose de très positif sur qu'est-ce que c'est que de vivre en France. Parce que je pense qu'on est dans un pays magnifique et qu'on a tendance à l'oublier complètement.
Merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand de nous avoir accordé quelques minutes ce matin, de nous avoir exposé ce grand projet photographique que vous lancez donc ce matin. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci.
Elle donnera le coup d'envoi de sa tournée en octobre dans des salles intimistes avant sa série de concerts dans les Zéniths de France. C'est Clara Luciani. Bon réveil sur Europe 1.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure son timidité, une insolence chorégraphiée. Forcé ce soir-là.
C'était Clara Luciani sur Europe 1. Respire encore, extrait de son album Cœur, sorti en juin dernier.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, voilà ce qui vous attend dans la prochaine demi-heure.
La prescription culture de Margot Barallon qui a eu un coup de cœur pour une série très drôle sur 4 femmes quinquagénaires au bord de la crise de nerfs.
Et puis on va s'intéresser à un problème trop souvent passé sous silence, Omblin.
Oui, des personnes qui se battent avec les mots, l'orthographe, la grammaire, la moindre démarche administrative est impossible et elles doivent constamment demander de l'aide. Dans notre pays, 2,5 millions de personnes de plus de 18 ans souffrent d'illettrisme. On sera dans une dizaine de minutes avec Aline Le Gulu qui a fait de l'illettrisme son combat. Elle a appris à lire à l'âge de 50 ans et aujourd'hui, elle est l'une des porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France.
Mais avant, accueillons la plus lettrée d'entre nous.
Oh bah ouais, au moins.
Elle a passé le week-end à potasser le traité de météorologie de Louis Cotte en 1774.
Hein,
formidable ouvrage. Anissa Haddadi, de la chaleur au programme de ce lundi.
Alors, ce que j'ai potassé, c'est les températures, ça, pour aujourd'hui. Je peux vous dire que je les ai toutes bien regardées. Et il va faire très chaud. Alors, ce matin, on a déjà 11 degrés à Charleville-Mézières, 13 à Rouen, 14 à Lille, 15 à Strasbourg et Lyon, 17 degrés à Marseille et à Paris, ce matin, 19 à La Rochelle et 21 degrés à Nice. Cet après-midi, le thermomètre s'affole avec 22 degrés à Cherbourg, 24 à Boulogne-sur-Mer, 26 à Lille, ça augmente partout. Hein. 28 degrés à Nancy et à Metz, 29 pour Clermont-Ferrand et Paris, 31 degrés à Rennes et Châteauroux, 32 à Nantes, 34 à Bordeaux, 36 à Mont-de-Marsan. Mais ce qui est impressionnant aujourd'hui, ce sont les températures ressenties. Alors les températures ressenties, c'est quand on cumule les températures plus l'humidité. Donc on aura 30 à 35 degrés en ressenti sur l'ensemble du pays, 38 degrés à Brest et jusqu'à 41 degrés dans le Pays Basque. Aujourd'hui, il va faire très lourd. Il y a même des endroits où ça va être très peu respirable. Dans le ciel, au bord de la Méditerranée, nous avons des entrées maritimes, donc le ciel est un petit peu gris ce matin. Dans l'après-midi, sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est, un léger voile nuageux va passer et partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil dans un ciel complètement dégagé.
Magnifique. Merci Annie. Ça l'a dit. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal. Il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Une femme expulsée de son HLM après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. La justice niçoise donne raison au bailleur social qui réclamait son départ. Cette semaine qui commence va être marquée par l'ouverture d'un procès historique à partir de mercredi, celui des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. La Nouvelle-Calédonie franchit le pas de la vaccination obligatoire contre le Covid. Elle concernera tous les adultes de 18 ans et plus. Et puis, comment gérer l'argent de poche de ses enfants? De nombreuses applications proposent des cartes bancaires dédié aux adolescents, mais contrôlé par leurs parents.
Europe 1.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La décision crée la polémique, mais elle pourrait bien faire jurisprudence. À Nice, une mère de famille doit être prochainement expulsée de son logement HLM. Décision de justice après la condamnation de son fils pour trafic de drogue. Zoé Pallier.
Peu de temps après la condamnation de son fils, cette femme apprend qu'elle doit quitter son logement HLM. Lettre signée de son bailleur social, informée du jugement par la préfecture, et ce en vertu d'un texte daté d'avril dernier porté par Anthony Boré. Il est premier adjoint au maire de Nice et président du bailleur Côte d'Azur Habitat.
Moi, je ne peux pas laisser des habitants d'un quartier qui vivent dans des conditions modestes être ennuyés et avoir la peur au ventre face à des trafiquants de drogue dans une ville où il y a 16 000 demandeurs de logement qui attendent parfois plusieurs années et qui se comporte extrêmement bien par rapport aux valeurs de la République française.
Une mesure dénoncée par des associations, elles évoquent une atteinte au droit au logement. Manuel Domergue est porte-parole de la Fondation Abbé Pierre.
Déjà du point de vue de la justice, c'est une punition collective. Imaginez que vous êtes une famille avec plusieurs enfants, il y en a un qui a mal tourné, qui a été condamné. Pourquoi est-ce que toute la famille serait expulsé de son logement social, c'est possiblement une double peine, déjà pour la personne condamnée, et puis pour le reste de la famille qui n'a peut-être rien à voir avec sa responsabilité.
Et il faut s'attendre à de nouvelles expulsions dans les prochains jours à Nice. Pas moins de 72 procédures sont en cours d'examen.
Zoé Pallier.
Ce sera le moment fort de cette semaine qui débute.
L'ouverture mercredi devant la cour d'assises spéciale de Paris du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, qui avait fait 130 morts et plus de 350 blessés. Procès hors norme. À lui seul, le dossier d'instruction frôle le million de pages. Plus de 1800 parties civiles constituées et plus de 300 avocats. Dans le box, 14 accusés, dont Salah Abdeslam. 6 autres seront jugés en leur absence. Cette attaque a plongé Paris et la France dans l'horreur. Europe 1 vous propose un témoignage exceptionnel ce matin. matin, celui de Christophe Molmy, l'ancien patron de la BRI, brigade de recherche et d'intervention. C'est lui qui a mené l'assaut final dans le Bataclan. Il est entouré de ses hommes à l'étage de la salle plongée dans l'obscurité, 15 otages et deux kamikazes déterminés. La suite, c'est lui qui la raconte.
Il s'agissait d'un couloir avec des otages au milieu de terroristes et un groupe d'assaut qui rentrait dedans. Sur le papier, c'était la plus mauvaise configuration qu'on pouvait imaginer. Bon, la première partie de l'assaut, ça a été un moment assez intense parce que finalement, on a subi les tirs des terroristes. D'ailleurs, on a un blessé grave qui prend un éclat par ricochet sur un mur qui lui touche à la main et qui l'envoie voler dans la salle. Et en avançant, les otages sont passés derrière le bouclier et sont tirés par la colonne jusqu'à l'arrière de la colonne où une seconde colonne les prend en charge. Là, on est dans une phase plus active parce que on pense que tous les otages sont sortis. Là, les gars tirent un peu plus, jettent des grenades. En ce faisant, le premier de colonne bute sur une marche, il doit lâcher le bouclier qui tombe devant lui. Tout au bout du couloir, les collègues voient une ombre revenir vers eux avec une arme à la main, donc ils comprennent que c'est un des terroristes. Le premier de colonne tire dessus, il le blesse, le terroriste recule, il tombe au sol et seulement là se fait sauter. Alors, le deuxième terroriste est sonné, est blasté, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le souffle, le projette contre le mur. Quand la colonne continue à avancer et le découvre, il est en train de chercher son détonateur. Et là, il est neutralisé, l'assaut est fini. Ça a duré un peu plus de 2 minutes à peine.
Le témoignage de Christophe Molmy, ancien chef de la BRI, qui est intervenu au Bataclan. Il répondait à Marion Dubreuil. Il y a eu cet assaut, il y a eu ensuite l'enquête proprement dite qui s'est étalée sur près de 4 ans. Jusqu'à mercredi sur Europe 1, les coulisses de l'info à 8h40 seront entièrement consacrées à ce procès du 13 novembre 2015. L'ancien juge d'instruction Georges Fenech et notre journaliste Marion Dubreuil reviendront sur la soirée du 13 novembre et l'enquête.
La crise sanitaire, le pic de la quatrième vague semble passer. En tout cas, le nombre de malades diminue progressivement.
Très progressivement même, mais la baisse semble bel et bien amorcée. On compte un peu moins de 11 000 patients hospitalisés. Quant aux entrées en réanimation et services de soins critiques, elles diminuent également avec 2276 malades. La Nouvelle-Calédonie a été épargnée par le Covid jusqu'à présent, mais cela n'empêche pas les décisions radicales. La vaccination y sera bientôt obligatoire, une première pour un territoire français. Jean-Sébastien Soldaini.
Le choix est assumé et guidé par un seul objectif, s'assurer que l'archipel reste l'un des rares territoires au monde sans aucun cas de Covid. La mesure s'applique à toutes les personnes majeures. Pas de débat pour ce territoire d'outre-mer. La mesure fait consensus au congrès local, car le système de santé est fragile, le personnel spécialisé manque. Alors Milakulo Tukumoli, président de la commission permanente, interrogé par nos partenaires de Radio Rythme Bleu, s'attend à ce que cette décision produise deux effets.
Un, on va essayer d'augmenter les statistiques de la vaccination. Comme vous le savez, on est à 30-35%. C'est faible. Même au sein des familles, ça divise. Ça divise le monde entier. Notre responsabilité aujourd'hui nous pousse à être unanimes sur le sujet. Deuxièmement, l'État prendra un décret.
Un décret qui rendrait cette vaccination obligatoire pour toute personne entrant en Nouvelle-Calédonie. Quant à de possibles sanctions, elles seront évoquées plus tard, sauf pour les personnes à risque, le personnel de santé, les agents d'aéroport. Ils encourent 1 475 € d'amende s'ils refusent toute injection.
Jean-Sébastien Soldaini.
En Afghanistan, les talibans poursuivent leur offensive dans la vallée du Panjshir.
Le dernier bastion d'opposition au régime, la résistance emmenée par le fils du commandant Massoud, réclame ce matin un cessez-le-feu et demande aux talibans de retirer leurs troupes contre la promesse de ne pas engager d'action militaire.
C'est une petite révolution dans le domaine de l'hébergement d'urgence. Le gouvernement veut réformer ce dispositif en profondeur.
La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, l'annoncera aujourd'hui aux associations concernées. Selon le quotidien La Croix, le gouvernement veut mieux anticiper les besoins en matière d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. L'idée étant de définir les besoins région par région et sur plusieurs années.
Comment gérer l'argent de poche des adolescents? Vaste question. Eh bien, les parents s'interrogent souvent. La technologie s'en mêle et leur propose quelques solutions.
C'est vers l'âge de 10-11 ans que l'on décide de donner quelques pièces ou un billet à son enfant. Plusieurs applications proposent aujourd'hui de se passer de liquide et d'utiliser des cartes bancaires contrôlées par les parents. Clément Le Saffre a rencontré une famille qui en a adopté le principe.
Donc j'ai mon application, quand je l'ouvre, je vois toutes les dépenses que j'ai faites et donc je vois le montant qu'il y a sur ma carte.
T'es riche, hein?
À 11 ans, Max gère déjà ses comptes en bon père de famille. C'est lui qui a demandé à avoir une carte bancaire plutôt que des espèces. Chaque mois, ses parents lui versent donc ses 11 euros d'argent de poche directement depuis l'application PixPay.
J'ai une carte physique que je peux utiliser partout. Je peux demander de l'argent à mes parents. Donc j'ai aussi mon RIB, donc on peut me faire des virements.
Plutôt sceptique à l'idée de donner une carte bancaire à son fils, Julie, la mère de Max a finalement adhéré au concept.
Dès qu'il dépense quelque chose, je reçois une notification sur mon téléphone qui me dit « Max a dépensé 5 euros dans tel magasin ». Pour ses fournitures scolaires, ça me facilite grandement les choses. Si jamais il y a un problème, en tant que parent, on peut bloquer certains types d'achats.
Alors les parents de Max ont pris le pli, mais tout le monde n'a pas encore l'habitude de voir un garçon de 11 ans payer par carte, à commencer par les vendeurs dans les magasins.
Souvent quand je dis « par carte s'il vous plaît », ils me regardent, ils sortent le terminal, mais quand même, ils ont souvent une réaction un peu, c'est plutôt drôle.
Et si l'argent de poche sert encore de temps en temps à acheter des bonbons à la boulangerie, avec ces nouvelles cartes, les ados effectuent près de la moitié de leurs achats sur Internet.
Clément Le Saffre.
Et c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Cran que se disputera ce Quintet. Une course au trot attelé qui réunira 16 partants, répartis sur deux poteaux différents départs, 2775 et 2800 mètres. Lauréat de cette même épreuve l'an dernier, Duel du Gers, le numéro 13, sera mon préféré. Toujours aussi performant cette année, ce spécialiste des pistes en herbe devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entraîneur-driver Mathieu Abrivard. L'opposition sera constituée par le numéro 15, Elvis Duvallon, idéalement engagé de par les conditions de course sur un tracé corde à droite qu'il va apprécier. 16, Clark Soto, quatrième de l'édition 2020 et ménagé ces dernières semaines en vue de cet objectif. Et 5, Diego de Cao, qui reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives, toutes obtenues avec la manière. Enfin, les numéros 11, Fréja Dupont, 1, Easton of My Life, 12, Ce Retour d'Oscar et 14, Brillant Madric compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 15, 16, 5, 11, As, 12 et 14.
Pronostic à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger, à demain. Il est 5h39, bonjour, bon lundi, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Ça commence aujourd'hui, les journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Vous allez entendre le témoignage d'Aline Le Guluche qui est retournée à l'école à l'âge de 50 ans. A tout de suite.
Matinale Info sur Europe 1.
5h42 en ce lundi matin, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. 2,5 millions, c'est le nombre ahurissant de personnes de plus de 18 ans en France qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est justement pour mettre des mots sur ce fléau que débutent aujourd'hui les journées nationales d'action contre l'illettrisme, avec plus de 500 manifestations partout en France. L'occasion de montrer que rien n'est irréversible, comme le prouve Omblin votre invitée, Aline Le Guluche, ancienne illettrée, qui est aujourd'hui l'une des porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France.
Bonjour Aline Le Guluche.
Bonjour Omblin.
Vous avez appris à lire à l'âge de 50 ans, vous avez raconté, et je vous cite, cette vie de galère dans un livre paru l'an dernier. La moitié de votre vie, vous vous êtes battue avec les mots. En quoi cela a façonné votre existence ?
Ah, ça façonne vraiment notre existence, puisque ça nous empêche d'évoluer comme on aurait souhaité. C'est une prison intellectuelle, c'est comme si on marchait à l'aveugle. C'est une tragédie de ne pas maîtriser la lecture, l'écriture et la compréhension et même le calcul pour certaines personnes à l'époque où on vit.
Être illettré n'empêche pas d'occuper un emploi, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de compétences. En revanche, c'est a priori un frein pour progresser. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Pour ma part, j'ai quitté l'école à peine 16 ans et j'ai tout de suite été travailler en usine parce que là, on ne me demandait pas un CV ou des compétences autres que travailler avec mes bras et mes mains. Donc l'usine, voilà, ça m'allait tout à fait bien. Ça me permettait de gagner ma vie sans compétences à côté.
Chaque démarche devient une épreuve quand on est illettré ?
C'est une épreuve, c'est une grosse épreuve. C'est impossible, toute seule, c'est impossible. On est obligé de demander de l'aide quelque part. Soit à notre mère, à notre conjoint ou à nos enfants ensuite. On ne peut pas à un ami, une amie, mais on ne peut pas tout seul. On ne peut pas. Ma mère m'a appris à remplir un papier de sécurité sociale. Voilà, mot à mot, voilà, recopier. Sinon, toute seule, j'étais incapable.
Selon vous, est-ce que c'est encore plus dur quand on est une femme ?
C'est encore plus dur, je pense, quand on est une femme, puisque la femme doit gérer le foyer, bien souvent, hein, parce que les hommes travaillent, voilà, et puis, comme les femmes d'ailleurs, mais eux, ils s'occupent plus du bricolage, tandis que la femme, elle va s'occuper plus de l'administration, des enfants, de leur éducation. Une femme qui a des difficultés avec la lecture et l'écriture, et c'est un terrible handicap. faut suivre la scolarité des enfants, il faut pallier aux problèmes des papiers administratifs. Donc voilà, c'est toujours moi qui me déplace. À l'époque, on trouvait quelqu'un derrière les bureaux pour nous aider, mais à présent, il n'y a plus personne. Quoique maintenant, on peut aller dans des mairies où là, ils nous présentent des personnes, nous donnent des adresses pour qu'on puisse être aidé. Et puis maintenant aussi, il y a le numéro vert de l'illettrisme où là, on peut nous diriger. Ça, c'est très bien. Ça a bien progressé. Ouais.
Le numéro vert, c'est le 0800 11 10 35. Et on le rappellera. On a tendance à croire que l'illettrisme est dû au milieu social, au cadre familial. Ça peut être bien plus compliqué que ça.
Oui, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que dans les milieux ruraux, c'est vrai que... Parce que moi, j'ai été élevée pour travailler toute petite. J'ai commencé à travailler et puis on s'en fichait un petit peu que je sois dyslexique, hein, parce que ça, c'était le gros problème, la dyslexie.
C'est parti de là pour vous ?
Pour moi, oui, c'est parti de là, oui. Oui, oui, parce qu'il y a des tas d'enfants qui naissent dans des milieux ruraux et c'est pas pour autant qu'ils sont illettrés. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un handicap de naissance, on sort de l'école avec un manque de compétences et du coup, forcément... C'est le peu qu'on a appris à l'école, puisqu'on travaille manuellement, et ben on l'oublie, ça s'effrite les connaissances, ça s'effrite, c'est pas comme faire du vélo. Et ensuite, on marche à l'aveugle pour tout.
Oui. Aujourd'hui, l'illettrisme concerne encore 2,5 millions de Français de plus de 18 ans. Alors parmi nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont illettrés, qui connaissent une personne illettrée, qu'est-ce que vous leur dites ? Quels sont vos conseils ?
Autour de moi, je dis toujours aux gens, attention, votre enfant, votre jeune a des difficultés. Il n'a peut-être pas le niveau. Il faut faire des petits tests sympathiques. Il ne faut pas brusquer les gens. Et il y a des adultes aussi, vraiment, à 40 ans ou 50 ans, ils ne veulent pas changer de profession. Ils se trouvent au chômage. Ils n'osent pas prendre les formations qu'on leur présente parce qu'ils ont peur de se trouver... gênée devant d'autres personnes pour apprendre. Moi, je suis retournée à l'école à 50 ans et là, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, mais ça s'est très bien passé. Et donc, oui, allez-y, retournez à l'école, évoluez, c'est ça la vraie liberté. Hein. C'est la liberté, c'est de savoir lire, écrire, compter pour pouvoir diriger sa propre vie, ne pas attendre après les autres pour le faire.
Merci beaucoup, Aline Le Gulluche, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'ambassadrice du programme Water Future mis en place par Lancôme pour combattre l'illettrisme chez la femme et vous êtes porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Et si vous cherchez de l'aide, on rappelle ce numéro vert, illettrisme info service, c'est le 0800 10 35. Il est 5h47 sur Europe 1. Bon début de journée à tous. Vous partez peut-être déjà au travail en vous disant encore une longue semaine qui débute. Eh bien, on a une solution pour qu'elle passe plus vite. La promesse de soirée télé réussie.
Grâce à la prescription culture et le lundi, c'est série. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour tout le monde.
Alors ce matin, Margot, vous allez nous parler de votre coup de cœur pour une nouveauté qui sort sur Canal+.
Oui, ça s'appelle On the Verge et comme le titre ne l'indique pas du tout, c'est une série française tournée en partie en anglais, en partie en français. On la doit en fait à Julie Delpy, actrice mais aussi réalisatrice de cinéma au départ et qui est franco-américaine, hein, donc ceci explique cela.
Et ça veut dire quoi, On the Verge ?
C'est une expression en fait pour dire que quelque chose est sur une ligne de crête et s'apprête à basculer. Et en l'occurrence, la série raconte l'histoire de quatre femmes quinquagénaires qui sont au bord de la crise de nerfs.
Je ne mange plus de gluten depuis des mois, Will. Tu ne t'en es même pas aperçu. Tu me regardes plus. Tu me demandes pas de quoi j'ai envie. Tu choisis à ma place. Tu vois, c'est vraiment ça, le problème de fond de notre couple.
Non, si seulement il y avait que ça comme problème.
Quoi ? Il y a d'autres problèmes ?
Arrête. Tout ce que je voulais dire, c'est que parfois, c'est trop dur de...
Trop dur de quoi ? Trop dur de m'aimer ? Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Will ?
Là, on vient d'entendre Yasmine qui a de toute évidence quelques petits problèmes de couple et qui essaie de retrouver un travail après un congé maternité qui en fait a duré 12 ans. Il y a également Ella, mère célibataire, fauchée avec trois enfants de trois pères différents. Anne, créatrice de mode, entretenue par sa mère. Et puis enfin Justine, jouée par Julie Delpy elle-même, qui est chef d'un restaurant et qui cherche l'inspiration pour écrire un livre de cuisine et pour répondre aux questions existentielles de son fils Albert.
Maman, tu crois que si John Lennon avait pas été assassiné, le monde serait meilleur ?
J'en sais rien. Peut-être bien.
Moi, je crois que oui.
Un avis peut-être, Omblin ?
Oui, moi, je crois que oui aussi. Hein.
Il serait meilleur aussi le monde avec Freddie Mercury, David Bowie, on peut faire la liste.
Absolument.
On est face, Margot, à quel genre de série? C'est un drame, c'est une comédie?
Alors c'est très drôle, avec un humour souvent décalé, parfois féroce, mais on n'est pas non plus dans la pure comédie. On the Verge, c'est aussi une déclaration d'amour aux femmes de 50 ans qui ont longtemps été absentes des petits et des grands écrans. Écoutez ce qu'en dit la réalisatrice Julie Delpy.
On apprend à être une femme bien dans ses baskets et après on vous met un peu sur le côté, c'est la société ou l'image qu'on en fait un peu à Hollywood, etc. Et là, je décris des vraies femmes, des personnages vibrants qui n'ont pas laissé tomber, qui ont envie de nouvelles choses, qui n'ont pas envie juste parce qu'elles sont dans une relation avec un mec qui est pas mal, que ça s'arrête là. Et elles sont mères, mais elles sont aussi, elles travaillent, elles ne veulent pas être que mères, elles ne veulent pas être que femmes de travail non plus. Elles veulent être plusieurs choses, quoi. Elles veulent leur liberté d'une certaine manière.
Voilà, des personnages vibrants, c'est vraiment l'atout numéro un d'On the Verge, d'autant que les personnages secondaires aussi sont très soignés. Les trois premiers épisodes sont diffusés ce soir sur Canal+, et la série sera disponible aujourd'hui en intégralité sur la plateforme MyCanal.
On the Verge, donc voilà qui va agrémenter nos soirées cette semaine. Merci beaucoup, Margot Barallon.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h51, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 6 septembre avec Alban Le Prince.
Bonjour à tous. L'image de cette nuit vient de Sao Paulo. Le match Brésil-Argentine arrêté après seulement 10 minutes de jeu par les autorités. Des joueurs argentins se seraient affranchis des règles sanitaires arrivées de pays étrangers. Ils n'auraient pas respecté la quarantaine obligatoire. C'est le procès du siècle, celui des attentats du 13 novembre 2015. Il s'ouvre mercredi, un procès hors norme. Plus de 1800 parties civiles, 14 accusés présents en Suisse, procès toute la semaine sur Europe 1. La France condamne la tentative de putsch en Guinée. Elle demande la libération immédiate d'Alpha Condé. Les putschistes affirment avoir enlevé le président. Ils ont instauré un couvre-feu. 100 000, c'est le nombre d'infractions liées à la cybersécurité qui ont été relevées en France. L'an dernier, le nombre de cyberattaques a même été multiplié par 6 pendant la crise sanitaire. Pour trouver des moyens de défense, le Forum international de la cybersécurité s'ouvre aujourd'hui à Lille.
Merci Alban Le Prince. On développera certains de ses titres, les essentiels dans le journal complet à 6h avec Romain Oquet.
Europe Matin.
Et après l'info nationale et internationale, penchons-nous maintenant sur l'actualité au plus près de chez vous. C'est l'un de vos nouveaux rendez-vous du matin baptisé « C'est en France ». Un article de la presse régionale raconté par celui ou celle qui l'a écrit. Et ce matin, Julien, direction la région nantaise.
Bonjour Pierre-Marie Herriot.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de Presse Océan, où l'on peut lire ce matin un dossier sur les entrepreneurs nantais qui ont réussi, voire très bien réussi. Et il y en a plus que ce que l'on pourrait s'imaginer. Hein.
Oui, et encore, nous ne présentons à nos lecteurs que quelques-uns d'entre eux. C'est vrai que Nantes est une terre d'entrepreneurs, et il y a comme ça plein de belles histoires, de belles aventures, de belles sagas à raconter.
Alors cette série de portraits débute avec le patron de Dream Yacht Charter. C'est le leader mondial de la location de voiliers et catamarans.
C'est un ancien journaliste, et un ancien journaliste de Presse Océan, qui a créé son entreprise il y a maintenant une vingtaine d'années, Dream Yacht Charter, et il est devenu en peu de temps le leader mondial de la location de voiliers. Il dispose d'une soixantaine de bases, je crois, dans le monde entier, et pour certaines en France d'ailleurs, et lorsque vous allez louer un bateau, et ben, il y a de grandes chances que vous louiez un bateau à Dream Yacht Charter.
C'est une vraie success story que le Covid n'a pas réussi à stopper, hein.
Non, le Covid lui avait mis un tout petit coup de frein, mais je l'ai eu il y a encore très peu de temps et il a repris tous ses voyages à travers le monde. Il a réussi à maintenir la barre en pleine crise sanitaire, à maintenir le cap. Exploite aujourd'hui encore 950 bateaux et emploie 500 salariés.
Ce qui est considérable. Autre portrait très intéressant que vous nous proposez, celui de Gérard Garnier. Alors ce n'est pas un nom connu du grand public, en revanche les musiciens savent très bien qui c'est.
Oui, Vianney par exemple ne joue plus que sur sa lag. Cette fameuse guitare que le chanteur a lui-même dessinée et que Algan, puisqu'il Gérard Garnier est le PDG de Algan, lui a fabriquée. C'est une histoire extraordinaire, Gérard Garnier, comme toutes les histoires que nous racontons d'ailleurs hein, dans ce sujet. Mais c'est une histoire extraordinaire parce qu'il a commencé avec un bout de roseau, un bout de bambou qu'il a percé avec une perceuse Black & Decker et qu'il a vendu. On est dans les années 60, hein, avec le mouvement hippie, et il a commencé à vendre comme ça des flûtes. Et petit à petit, il a créé un véritable empire des instruments de musique, et c'est aujourd'hui l'un des leaders européens, si ce n'est mondial dans certains domaines, de la vente d'instruments de musique.
Oui, et notamment aussi les pianos Pleyel.
Et voilà, et c'est lui qui a repris. Alors, tout le monde connaît le théâtre Pleyel, mais c'est lui qui a repris il y a quelques années les pianos Pleyel et qui refabrique les pianos Pleyel. Alors, ils sont en partie fabriqués en Chine, mais ils sont tous montés dans les ateliers de l'entreprise à Thoiré et à Carquefou.
Pour terminer, le parcours le plus fulgurant peut-être que vous racontez, c'est celui du fondateur de Back Market, le spécialiste français des smartphones et tablettes reconditionnées.
Voilà, spécialiste français qui aujourd'hui vise même l'international, hein, puisqu'ils viennent de lever 276 millions d'euros pour leur développement à l'international. Eh bien, Thibaut Hugues de la Rose, qui a monté cette entreprise il y a quelques années avec deux copains d'école, est en train de créer un véritable empire et une véritable fortune.
Merci beaucoup Pierre-Marie Herriot, merci de nous avoir raconté ce dossier à lire donc aujourd'hui dans Presse Océan. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Je ne suis certainement pas le premier auteur-compositeur à assimiler le fait de tomber amoureux à une maladie incurable. Et je ne serai pas non plus le dernier. Ce sont les mots de Sting. C'est son nouveau single, If It's Love, extrait de son album The Bridge, qui paraîtra le 19 novembre. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? What my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love, if this love is sunk without a trace, one case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. My doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid you're fading on birds.
If it's love, premier extrait du prochain album de Sting qui sortira le 19 novembre prochain.
Il est vachement bien ce premier single, si je peux me permettre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Mais vous pouvez tout vous permettre, ma chère Omblin.
5h58, vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous en ce lundi matin qui fait du bien avec au programme notamment de la prochaine demi-heure, Julien, un cri d'alarme.
Celui que lancent les ONG alors que la sixième extinction de masse s'accélère. Près de 30% des espèces autour du globe sont menacées à cause du réchauffement climatique, mais aussi de nos activités. Quelles solutions pour préserver la biodiversité? Comment pousser les États à en faire plus? C'est tout l'enjeu du Congrès mondial de la nature qui s'est ouvert vendredi à Marseille. On en parlera dans un petit quart d'heure avec Véronique Andrieux, la directrice générale du WWF France. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Entre rock et soul, il a fait le choix de ne pas choisir. Lenny Kravitz, c'est sa vie avant de devenir une référence mondiale à 6h20.
La météo, Anissa Haddadi, soleil et grosse chaleur pour aujourd'hui.
Oui, entre soleil et chaleur, nous aussi, on a décidé de ne pas choisir. On aura les deux aujourd'hui. Et pas qu'un peu, le soleil va briller partout. Quelques petits nuages ce matin. Des Pyrénées à la Méditerranée, le ciel est gris à cause des entrées maritimes. Alors, elles sont assez tenaces, ces entrées maritimes, puisqu'elles vont durer toute la journée, notamment du côté des Bouches-du-Rhône ou du Var. Dans le nord de la Bretagne, au Hauts-de-France, nous avons quelques nuages bas, comme d'habitude, le long des côtes de la Manche. Dans la matinée, ces nuages vont se dissiper dans l'après-midi. Vous l'avez compris, le ciel va briller généreusement sur l'ensemble du pays avec, comme depuis plusieurs jours en fin de journée sur les Alpes et les Pyrénées, des orages qui éclatent en altitude. Les températures, 12 degrés ce matin à Aurillac, c'est doux, 14 à Caen et Grenoble, 17 déjà à Paris et Montpellier et 21 à Nice. Cet après-midi, 23 à Dunkerque, 27 à Nice, 29 pour Paris, 32 à Brive-la-Gaillarde et 36 à Mont-de-Marsan avec un ressenti de 41 degrés dans le sud-ouest.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il faut que la justice, de manière inflexible, avance. Et aux actes barbares, il faut dans ces cas-là répondre par des actes civilisés.
Comment juger les terroristes du 13 novembre 2015 ? 14 accusés seront présents mercredi pour l'ouverture d'un procès historique. Parmi eux, Salah Abdeslam, seul survivant du commando meurtrier. La quatrième vague maîtrisée est bientôt terminée. L'optimisme du directeur général de la Santé, grâce à la progression de la vaccination obligatoire le 15 septembre pour les soignants. Reportage à suivre au CHU de Rennes. Et puis en Allemagne, la grand-messe de l'automobile de retour. Demain, premier salon de l'auto depuis le début de la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs. Ces petites puces que l'on trouve de l'airbag au tableau de bord. En France, les concessionnaires peinent à honorer leurs commandes. Et le journal de 6h vous est présenté par Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Vendredi 13 novembre 2015, 21h16, Paris plonge dans l'horreur. En une demi-heure, à peine 130 morts près du Stade de France, sur les terrasses parisiennes ainsi qu'au Bataclan. Mercredi, c'est le début d'un procès historique pour un choc national. 9 mois d'audience, plus de 1800 parties civiles et 14 accusés présents, dont Salah Abdeslam, dernier survivant du commando meurtrier. Maître Negar Haïri est l'avocate de l'un de ses complices.
Le bouleversement provoqué par ces crimes existe, mais à l'intérieur de ce décor qui est absolument dramatique et de ce contexte, il faut que la justice, elle, de manière inflexible, avance. Et aux actes barbares, il faut dans ces cas-là, avec plus de raison encore et de force, répondre par des actes civilisés. Et donc cette espèce d'équation ou de cohabitation de deux choses qui semblent impossibles peut paraître un peu étonnante. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Et la seule question, c'est est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui prouvent que... Voilà. Notre intérêt à tous, c'est que la décision soit implacable. Si c'est une décision de condamnation ou même une décision d'acquittement. Et pour qu'une décision soit implacable, il faut que la défense ait eu de l'espace.
Maître Negar Haïri, avocate de l'un des accusés au micro européen de Gladys Laffitte.
La quatrième vague de l'épidémie est-elle derrière nous ? Moins 20% de nouveaux cas en une semaine. Chiffre donné hier par Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.
Une amélioration aussi sur l'île de la Réunion. Le confinement est levé et le couvre-feu repoussé à 21h et ce dès aujourd'hui.
En France, métropole comme Outre-mer, près de 73% de la population a déjà reçu au moins une dose. Une couverture qui grimpe à 90% même chez les soignants.
Et pour eux, la vaccination. La vaccination deviendra obligatoire dans une dizaine de jours, dès le 15 septembre. Une formalité au CHU de Rennes où même les récalcitrants ont finalement accepté de relever leurs manches. Le reportage de Sandrine Prioul.
Ici, DRH, médecin du travail ou simple collègue, aussi entre satisfait et soulagement. Parmi les 10 000 salariés du CHU, les réfractaires à la vaccination sont moins de 20%, calcule le professeur Christophe Paris.
Finalement, il n'y a pas eu cette fronde. C'est une bonne surprise, c'est-à-dire que vis-à-vis du Covid-19, on a finalement une adhésion des soignants qui est bien supérieure à ce qu'on a connu, exemple de la vaccination anti-grippe. Vraiment, on est sur quelque chose qui correspond à la crise sanitaire avec toutes les conséquences que ça a.
Un quotidien où Claudine Sanchez se voit dorénavant soigner des malades du Covid non vaccinés. Heureusement, confie l'infirmière en maladies infectieuses, que ses dernières collègues ont emboîté le pas.
Certaines avaient des craintes et puis l'ont fait progressivement. Quand elles ont vu que les aînés, nous on était vaccinés depuis janvier, il s'est rien passé. Certaines ont attendu bien sûr l'obligation vaccinale.
Ces réfractaires, le DRH et Juan Paul se donnent une semaine pour leur faire changer d'avis.
Même après le 15 septembre, les personnes qui sont suspendues malheureusement, mais qui changent d'avis et viennent se faire vacciner, peuvent à ce moment-là reprendre leur poste de travail.
5 jours d'autant plus précieux que même si les défections seront rares, aujourd'hui les hôpitaux publics ne peuvent se permettre de tourner avec moins d'effectifs. Rennes, Sandrine Prioul, Europe.
Première nuit de couvre-feu en Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest. Une mesure décidée après la capture hier du président Alpha Condé par des officiers des forces spéciales. Une tentative de putsch condamnée hier par la France.
6h04 sur Europe 1, la suite de votre journal.
Avec le retour demain de la grand-messe de l'automobile en Allemagne, le premier depuis le début de la pandémie. Le salon des ménages cette fois à Francfort où nous serons avec notre envoyé spécial dans le journal de 7h.
Et dans les allées, un sujet de conversation sur toutes les lèvres, la pénurie de semi-conducteurs. C'est plus de la taille d'un timbre-poste que l'on trouve des airbags au tableau de bord. Et bien sans elle, la production mondiale est à l'arrêt.
D'ailleurs, si vous avez acheté une voiture neuve récemment, attention, des retards de livraison sont à prévoir. À Toulouse, par exemple, les concessionnaires peinent à honorer leurs commandes. Le reportage de Benjamin Péter pour Europe 1.
Nous, on est loin de la Chine, on est loin du Japon et on est loin de la Corée, parce que tout vient de là. Nous sommes tributaires de ça.
À chaque bon de commande signé, Raymond Vier voit les délais se rallonger. Et pour ce concessionnaire Peugeot du centre-ville, la situation n'est pas prête de s'améliorer.
Hier, j'ai reçu un client, il m'a demandé ce modèle-là, un véhicule de 7 places. Et il n'y en a pas de disponible. Si nous commandons avant ce soir, la livraison est prévue courant décembre. Peut-être le jour du Père Noël, peut-être. Et aujourd'hui, les voitures sont construites dans leur globalité peut-être, mais il manque des composants électroniques comme le calculateur, comme la télécommande, comme des trucs comme ça. On prend des bonnes commandes, on met des délais de livraison que le constructeur nous indique, et après, pourvu qu'on puisse livrer dans les délais prévus. Parce que bien évidemment, le non-respect de la date de livraison permet d'annuler la commande. Et nous sommes obligés de rembourser les acomptes. On a une baisse des ventes qui est en train de se produire, qui peut atteindre aux alentours de 30%. C'est colossal.
Et la conséquence, c'est que beaucoup de clients pressés se tournent vers des modèles moins demandés, parfois moins appréciés, mais disponibles immédiatement, ou vers le marché de l'occasion, qui se porte bien, mais pourrait bien lui aussi rapidement être dépassé par la demande. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Julien, une petite question. Est-ce que vous connaissez la commune de Chénier dans la Creuse ?
Eh bien, je l'ai découverte il y a 20 minutes grâce à Martin Lange dans le pressing.
Exactement, parce que ce week-end, le village a accueilli un événement. Et quel événement ? Le championnat d'Europe de la Coupe Mulet. Alors, c'est très sérieux. Et c'est même le Belge Nicolas Van Der Kellen qui a décroché le titre à l'applaudimètre. Une victoire remportée grâce à une belle chevelure, un brun frisé. Vraiment, je vous conseille d'aller voir les photos. Une fois n'est pas coutume, c'est un Belge qui a ramené la coupe à la maison, comme on dit.
Oui. Ils se rattrapent comme ils peuvent. C'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
6h07 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange. Et ça y est, Tokyo 2020, c'est terminé.
Oui, les Jeux Paralympiques se sont clos hier avec une très belle moisson de médailles pour l'équipe de France. 54, dont 11 titres. C'est le meilleur bilan depuis Athènes en 2015, mais loin du record. 186 médailles, c'était en 1984. Une éternité. Alors après cette belle réussite, place désormais à Paris 2024. Dans 3 ans seulement, c'est court, mais Tony Estanguet, le patron des Jeux parisiens, ne manque pas d'ambition.
Je pense que c'est un événement qui est encore trop méconnu en France. Et donc on a 3 ans pour mieux faire connaître ces disciplines paralympiques, pour mieux faire connaître ces champions paralympiques. Donc on a une ambition très forte. Pour la première fois, on s'est battu pour que ce soit le même logo, on s'est battu pour que ce soit les mêmes sites de compétition. Et ce sera aussi pour la deuxième fois, parce qu'on l'a mis en place pour Tokyo, mais la même équipe de France. Donc on essaie de faire évoluer quand même les critères pour monter d'un cran le niveau d'ambition de ces Jeux paralympiques.
Tony Estanguet au micro de Caroline Baudry.
Du foot maintenant et une scène surréaliste hier soir à Sao Paulo.
Oui, le choc entre le Brésil et l'Argentine s'est arrêté après 7 minutes de jeu seulement. Des officiels brésiliens sont entrés sur la pelouse pour venir chercher 4 joueurs argentins suspectés de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire. Ces 4-là jouent en fait en Angleterre et au Brésil, toute personne arrivant du Royaume doit se soumettre à une quarantaine. La fédération argentine pensait pouvoir passer outre, raté. Le match n'a jamais repris, charge désormais à la FIFA de désigner les responsables de ce fiasco. En France, les Bleus, eux, préparent fébrilement leur match contre la Finlande demain soir à Lyon. Faux pas interdit après le nouveau match nul samedi contre l'Ukraine, le 5e de suite.
Ce qui est dingue dans cette situation à Sao Paulo, c'est que les joueurs argentins étaient au Brésil depuis 3 jours, qu'ils ont attendu que le match commence pour aller les chercher. Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Les volleyeurs français bien rentrés dans leur euro. Deuxième victoire en deux matchs hier contre la Croatie et premier gros test ce soir contre l'Allemagne. Le début du top 14 aussi ce week-end et premier choc hier soir, le remake de la finale de l'an dernier, La Rochelle-Toulouse. Et comme en juin, c'est les Toulousains qui se sont imposés. Marc Verstappen qui soigne le retour de la Formule 1 aux Pays-Bas. Ça a dû vous plaire, Julien. Le local de l'étape s'impose pour le premier Grand Prix de Zandvoort depuis 36 ans et reprend la tête du championnat du monde. En vélo, le Slovène Primoz Roglic remporte son troisième Tour d'Espagne de suite. Comme sur la grande boucle, le premier Français s'appelle Guillaume Martin, 9e. Enfin, à l'US Open, le nouveau Rafael Nadal est en quart de finale. Il s'appelle Carlos Alcaraz, retenez bien son nom. Il a 18 ans seulement et il a battu l'Allemand Gojovcic cette nuit.
C'était le journal des sports, signé Martin Lange. Merci Martin. Il est 6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous et dans un instant on va à Marseille.
Où se déroule depuis vendredi le congrès mondial de la nature. Je vous donne un chiffre pour en mesurer les enjeux. En 50 ans, 68% des animaux vertébrés sauvages ont disparu. Quelle solution pour mettre fin à cette extinction de masse dont nous sommes les seuls responsables? On en parle dans un instant avec Véronique Andrieux, la directrice générale du WWF France. A tout de suite sur Europe 1.
5h, 6h30, Europe Matin.
Très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h12 et on va s'intéresser maintenant au congrès mondial de la nature qui s'est ouvert vendredi à Marseille, 90 États et des milliers d'ONG tentent d'y trouver des solutions pour mettre fin à l'effondrement de la biodiversité dans le monde. Parmi ces acteurs, Julien, votre invité, Véronique Andrieux, la directrice générale du WWF France.
Bonjour Véronique Andrieux.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes dans votre emploi du temps, j'imagine très chargé avec ce congrès mondial de la nature. Congrès inauguré vendredi par Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant. Mais avant, j'aimerais vous entendre sur cette nouvelle liste rouge des espèces menacées qui a été dévoilée ce week-end. Quelle a été votre réaction en la découvrant quand vous avez vu que près de 30% des espèces étudiées sont désormais menacées ?
C'est absolument affligeant, choquant, je dirais, de voir qu'en fait les rapports, les indices se succèdent et qu'on n'arrive pas à réagir à la hauteur des enjeux. C'est consistant, en tout cas, avec le rapport Planète Vivante du WWF, dont la dernière édition est sortie en 2020 et qui, du coup, faisait état donc de 2/3 de perte des populations de vertébrés sauvages en moins de 50 ans. J'espère qu'après cette nouvelle information, ce sont quand même des connaissances scientifiques très importantes qui classent, du coup, les animaux en fonction de leur degré d'extinction. Je pense que cette pandémie a aussi aidé à mieux faire le lien entre nature et justement la santé humaine et qu'on prend conscience en fait de l'impact pour l'homme et de la dangerosité de cette autre crise, la crise nature, la crise biodiversité, la crise du vivant, qui est beaucoup moins comprise, je pense, que la crise climat et qui sont intrinsèquement liées. Voilà.
Ce que ne montre pas cette liste, c'est la situation pays par pays. Qu'en est-il en France ? Est-ce qu'on est vraiment les champions de la biodiversité, comme le laisse penser Emmanuel Macron ?
Effectivement, au moment de l'ouverture, le président français s'est exprimé. Il a mis en avant ce rôle, cette impulsion politique et diplomatique de la France au niveau international et aussi au niveau européen. Ça, c'est quand même à saluer parce qu'il y en a absolument besoin d'avoir des États qui s'expriment, qui soient vocaux, qui placent le sujet tout en haut de l'agenda de la communauté internationale. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, on a un avis plutôt mitigé sur les annonces qui ont été faites, avec du positif et plusieurs sujets sur lesquels nous, on attendait des annonces et qui ont été passés sous silence.
Alors justement, au sujet de ces annonces, il y en a une qui m'a marqué. 5% de l'espace maritime français en Méditerranée sera transformé d'ici 2027 en aire de protection forte, contre 0,2% actuellement. Ça veut dire que les activités humaines nocives pour la biodiversité y seront interdites. C'est un progrès, ça, non ?
Ah oui, nous saluons cette annonce. C'est important. La Méditerranée est dans un état catastrophique, critique. Donc il était absolument impératif d'avancer dans ce sens. Comme vous le savez, dans le cadre des négociations en cours pour la COP15 à Kunming, donc les négociations autour de la Convention sur la diversité biologique, il est question de protéger à minima 30% des aires terrestres et marines, dont 10% en protection forte. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce 10%, il soit pas juste à l'autre bout du monde, là où il n'y a pas de, disons, aucune activité dans les TAF, mais que ce 10%, il soit réparti de manière équitable sur l'ensemble des façades maritimes, et notamment en Méditerranée.
Il y a une question sur laquelle peu d'États prennent d'engagement, c'est le financement des mesures de protection. Je prends pour exemple notre plan de relance à 100 milliards d'euros, dont seulement 0,25% est consacré à la biodiversité. Comment pousser les gouvernements gouvernements, mais aussi les entreprises, à mettre plus d'argent sur la table alors que la pandémie a vidé les caisses.
Le nerf de la guerre, c'est les financements. C'est déjà difficile pour le climat, si on pense notamment aux questions d'adaptation. Donc il est absolument essentiel qu'il y ait des moyens fléchés vers la biodiversité. Or, aujourd'hui, vous avez raison de le rappeler, c'est 0,25% du plan de relance et c'est 0,4% de la loi des finances 2021. Donc, c'est totalement insuffisant. Et c'est pourquoi nous, on a proposé plusieurs mesures, notamment de mettre fin aux subventions publiques dommageables à la nature.
Pour conclure, en quelques mots, Véronique Andrieux, qu'espérez-vous de ce congrès de la nature qui se termine samedi ?
On attend des mesures concrètes qui agissent sur vraiment les leviers systémiques et sur vraiment les racines en fait de cette crise écologique, de cette crise de biodiversité. Il faut aussi agir sur la finance, on en a parlé tout à l'heure aussi, très important, mettre fin à la finance qui détruit et au contraire aller vers une finance pro-nature, une finance vers la biodiversité, bien sûr, qui finance des projets de conservation, de préservation du vivant, mais aussi une finance qui soit plus verte et qui intègre des conditions environnementales en matière de biodiversité qui du coup informent les investissements et les portfolios d'investissement. Nous espérons aussi que les entreprises et le secteur financier sont présents et que du coup il y aura des outils de capital naturel qui vont être adoptés dans les stratégies et les outils de gestion des entreprises pour s'assurer en fait que la biodiversité ne soit plus ce point aveugle qui est aujourd'hui.
Merci beaucoup Véronique Andrieux d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du WWF France, le Fonds mondial pour la nature. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci.
Il est 6h18 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, la partition de Lenny Kravitz.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous. Il est 6h20 sur Europe 1. Les principaux titres de l'actualité avec le journal permanent d'Alban Le Prince.
Un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015. Il s'ouvre mercredi à Paris toute la semaine sur Europe 1. On suit le début de ce procès qui doit durer 9 mois. Définir les besoins territoire par territoire pour plusieurs années, c'est ce que souhaite Emmanuelle Wargon. La ministre du Logement doit annoncer aujourd'hui aux associations la fin des ouvertures et fermetures annuelles des places d'hébergement d'urgence. En Afghanistan, dans la vallée du Panjshir, la résistance appelle ce matin les talibans à un cessez-le-feu et à un retrait des troupes. Washington évoque les prémices d'une guerre civile.
Voilà qui annonce votre partition, Omblin, consacrée ce matin à l'un des artistes les plus influents et les plus respectés de la planète. Lorsque son premier album sort en 1989, Lenny Kravitz a 25 ans. Il ignore alors que ce statut de rockstar sera pour lui à la fois une bénédiction et un fardeau.
Ce sont ses propres mots, musicien surdoué qui joue de tous les instruments. Sa musique est hybride, influencée par la soul et le rock psyché des années 60 et 70. The cab driver won't stop
to let me. Lenny Kravitz est un enfant de la balle, une mère comédienne et un père producteur de journaux télé.
Et chez les Kravitz, dans les quartiers chics de l'est de Manhattan, on écoute tous les genres de musique. Les amis de la famille sont Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan et le géant du jazz, le pianiste Duke Ellington.
Deux événements vont sceller son destin.
Le concert des Jackson 5 au Madison Square Garden, celui de James Brown ensuite. Quand il déménage sur la côte californienne, Lenny Kravitz découvre Led Zeppelin et Prince. C'est décidé, il sera musicien de studio.
À l'adolescence, à l'âge de 16 ans, il est en conflit avec ses parents et Lenny Kravitz est mis à la porte par son père.
Il mène alors une existence bohème, dort dans sa voiture ou sur le canapé des copains. Et en ce milieu des années 80, alors que le hip-hop est en plein essor, que les synthés sont à la mode, Lenny Kravitz se dresse en défenseur d'une musique rock'n'roll imprégnée de rhythm and blues. Plusieurs labels se montrent intéressés, sauf que on lui demande de changer de style, de choisir entre rock et soul, comprenait entre musique blanche et noire.
Mais lui s'obstine et refuse tous les contrats qu'on lui propose.
Et malgré la précarité de son quotidien, pendant ses années d'errance, Lenny Kravitz rencontre l'ingénieur du son et musicien Henry Hirsch et le saxophoniste Carl Denson. Tous les trois travaillent pendant un an et demi sur le premier projet du chanteur. Let Love Rule sort. Il est publié par la multinationale Virgin, l'une des rares maisons de disques à accepter le côté flower power de ses compositions.
Can make a little
Let Love Rule, comme le nom du premier album de Lenny Kravitz, sorti le 6 septembre 1989 et comme sa première autobiographie parue l'an dernier, pendant laquelle il raconte ce premier chapitre de sa vie avant de devenir une star internationale.
Merci beaucoup, Omblyne. 6h24 sur Europe 1, on se fait couler un café et on revient dans un instant pour la suite de votre matinale avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
Europe Matin.
6h27 sur Europe 1. J'espère que vous avez apprécié cette heure et demie en notre compagnie. On vous retrouve, Omblyne et moi, dès demain 5h.
Oui, d'ici là, restez à l'écoute. Votre matinale se poursuit jusqu'à 9h avec Dimitri Pavlenko qui vient à peine d'entrer dans ce studio. Bonjour Dimitri.
Bonjour Omblyne, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Europe Matin.